Bonsoir mesdames, messieurs, pour cette nouvelle rencontre de la médiathèque Émile Zola, à l'occasion donc de l'apparition d'un livre remarquable, « Mémoire d'orfèvre », toute cette orfèvrerie dans les églises du Languedoc-Roussillon, mais nos conservateurs de la DRAC et restaurateurs vont nous en parler plus longuement. En tout cas pour nous, ça nous fait plaisir d'accueillir cette conférence. Du fait de l'importance de ce livre, tant au niveau scientifique que de l'iconographie. Et donc, je vais donc passer tout de suite la parole à Delphine, qui est conservateur à la DRAC, et qui va vous présenter d'une façon plus scientifique cette soirée.
Bonsoir à tous. Alors moi, je vais laisser le soin à Hélène Palousier et Frédéric Nicot de vous présenter donc l'ouvrage et de parler scientifique. Enfin, en tout cas, voilà, vous donner tous les éléments. Je voudrais simplement vous dire quelques mots pour vous dire que cet ouvrage, Mémoire d'orfèvre, est, je l'espère, le premier d'une longue série, c'est-à-dire qu'il s'inscrit vraiment dans la politique que nous essayons de soutenir avec un peu plus de vigueur encore depuis environ 2 ans. Je voulais profiter de cette occasion pour vous montrer aussi notre petite production. Donc nous avons créé une petite collection qui s'appelle le Duo, Monument Objet. Alors ça se décline en différentes couleurs en fonction du thème, patrimoine du XXe siècle, patrimoine restauré, patrimoine protégé. Ce sont des petites publications. Aujourd'hui, il y en a 7 qui existent. Il y en a une dizaine qui sont en préparation et qui sortiront courant 2012. Ce sont des petites publications gratuites que vous pouvez vous procurer à la DRAC sur simple demande et qui ont pour objectif de présenter de manière la plus rigoureuse et la plus simple possible au grand public ce que nous faisons, le patrimoine de notre région et les restaurations que nous menons. Donc ça fait vraiment partie de nos axes privilégiés. Et Mémoire d'orfèvre est un projet un petit peu différent, un projet de plus grande envergure, comme vous avez pu le voir si vous avez feuilleté l'ouvrage, qui avait réellement pour objectif de faire un point, et en tout cas de mettre en lumière l'orfèvrerie du Languedoc-Roussillon. Donc nous avons présenté dans cet ouvrage qui a été réalisé sous la direction d'Hélène Palousier, qui est donc docteur en histoire de l'art et qui est chargée de mission auprès de moi à la DRAC, et qui est spécialiste d'orfèvrerie. Donc ce livre qui a été réalisé et qui a été écrit par de grands spécialistes et puis par les conservateurs des monuments historiques de la DRAC et essentiellement les conservateurs des antiquités et objets d'art de la région. Vous trouverez aussi des articles de restaurateurs, dont Frédéric Nicot, qui a restauré l'ensemble des objets qui ont été photographiés et qui sont présentés dans cet ouvrage. Et je leur laisse désormais la parole en vous souhaitant une bonne soirée.
Alors, à mon tour de commencer par les remerciements. Je remercie d'abord, bien sûr, M. Gilles Guyoudan-Valrin de nous accueillir. Et Madame Annie Couteau, la librairie Sorens, Madame Dominique Perrin. Et je voudrais saluer aussi toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur cet ouvrage et qui est présente ici, non seulement la restauratrice Frédéric Nicot qu'on vous a présenté, mais aussi le photographe qui a réalisé toutes les superbes photos que vous allez voir, qui est dans la salle, je ne le vois plus, il se cache, Claude Bertrand. Voilà, vous pourrez éventuellement aussi lui poser des questions, et les graphistes avec lesquels nous avons travaillé et qui ont réalisé ces panneaux qui sont en sorte une synthèse de l'ouvrage. Et ils ont réalisé aussi la couverture de l'ouvrage que vous voyez ici et que je vais détailler. Voilà, donc merci à tous d'être venus si nombreux. Merci à ma maman qui m'a fait la surprise d'être là, donc je crois que c'est un peu grâce à elle que j'ai cette passion pour les objets des églises, pour les objets d'art en général, mais surtout des églises, pour avoir avec elle beaucoup arpenté ces édifices. Voilà, donc je te dédie, maman, ce petit moment sympathique aujourd'hui. Donc je présenterai tout d'abord l'histoire de ces œuvres à travers l'étude croisée des archives, des œuvres et des poinçons, ce que l'on a appelé les mémoires d'orfèvre. Et Frédéric Nicot, restauratrice du patrimoine, présentera à la suite les techniques de fabrication de ces objets en or ou en argent. et vous expliquera la déontologie de la restauration de ces pièces d'orfèvrerie. Pour ma part, pour ma présentation, mon plan est très simple. Tout d'abord les œuvres, ensuite les orfèvres. Un plan assez simple, vous le verrez, pour un domaine de l'orfèvrerie assez complexe. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Pardon ? Ah oui, c'est celui-là. Cette première image, l'image de ces bateaux portés à pleine voile, qui est un détail en cristal gravé du reliquaire de Saint-Prudent que je vous montrerai tout à l'heure, est une invitation au voyage à travers les trésors d'église. Et ce voyage vers le sacré rejoint le thème de la pêche du pêcheur. Choisi comme emblème de l'ouvrage consacré à l'orfèvrerie d'église, le poisson, symbole chrétien qui fait référence à la pêche miraculeuse, au poisson pêché par Pierre, est le signe de la résurrection. Il signifie le Christ, puisque le mot poisson, ictus, en grec ancien, est l'acronyme du nom du Christ, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Ce poisson est en fait une sardine. C'est un petit bijou en or du XVIIIe siècle, tout petit bijou qui fait pas plus de 12 cm de long, qui a été offert à l'ermitage Notre-Dame de Consolation par les marins de Collioure en remerciement de l'intercession divine lors d'une pêche miraculeuse. L'offrande d'ex-voto marin, pieuse reconnaissance des gens de mer en échange de la protection divine, est caractéristique de la côte méditerranéenne de l'Italie à l'Espagne. À Collioure, il était d'usage de présenter la sardine suspendue à un ostensoir. Autre objet remarquable du trésor d'orfèvrerie de Collioure, qui mesure plus d'un mètre de haut, destiné à exposer l'hostie consacrée, le Saint-Sacrement. C'est vous dire, lier ce poisson ex-voto à la dévotion eucharistique, au rite de l'ostation de l'hostie, à la fête du Saint-Sacrement, montre l'importance qui lui était consacrée et la dévotion qui lui était associée. Pour clore cette entrée en matière, voici un petit mot donc sur le reliquaire de Saint-Prudent, dont vous avez vu les plaques de cristal gravées de marine, enchâssées dans une monture d'argent, qui compose ce coffret exceptionnel du XVIIe siècle, probablement d'origine italienne. Selon la légende, il aurait appartenu à Marie de Médicis. Conservé aujourd'hui à la cathédrale Saint-Just de Narbonne, il fut légué au XIXe siècle par une riche famille et servi d'enveloppe aux reliques de Saint-Prudent, martyr narbonnais. C'est en fait un somptueux coffret de mariage de plus de 60 cm de long, offert à la mariée pour conserver ses bijoux incrustés d'entailles de grenats d'ivoire. Alors, il est évidemment datable de 1600, année du mariage de Catherine de Médicis avec Henri IV. Alors, ces deux bijoux, du plus petit au plus imposant, sont les premiers exemples des œuvres que vous trouverez dans ce livre, qui laisse une large place à l'image et aux histoires intimes de ces objets. Auréolés du prestige de leur classement au titre des monuments historiques, ces objets sont précieux comme des objets de musée. Mais ils ont une particularité, celle d'être toujours conservés dans les églises, éparpillés aux quatre coins du Languedoc-Roussillon. Et bien souvent, loin des circuits touristiques. Ils vous conduiront à Montbolo, à Saint-Paul-le-Froid, à Marsac, à Brissac, à Aramon, qui ne sont pas, je crois, les villages les plus connus de nos cinq départements. Ces objets ont une seconde particularité, c'est qu'ils sont toujours utilisés, toujours en usage. Et ils sont de plus surveillés par des associations attentives à leur conservation. Car nous sommes tous de près ou de loin concernés par ces objets et y sommes parfois très attachés. Disséminés donc dans toute la région, certains sont très populaires, ils évoquent tous des événements et sont souvent la fierté d'une commune. Et c'est ce lien au monument qui illustre ce tableau du XVIIe siècle, conservé dans un retable d'Arles-sur-Tech, présentant les œuvres dans leur contexte, qui est à la source de la réalisation de cet ouvrage. Le projet éditorial était de faire connaître ces objets classés monuments historiques, démarche de sauvegarde, trop peu connue par rapport à celle identique de classement des édifices. En effet, le monument historique, comme l'a bien expliqué Delphine Christophe dans son article de l'ouvrage, le monument historique qui naît sous la Révolution est essentiellement édifice. La prise de conscience de la nécessité de protéger les œuvres d'art est plus longue et tributaire des conflits idéologiques. Si la nationalisation des biens du clergé en 1789 a donné à la nation la responsabilité nouvelle de ces biens, ce n'est que sous la monarchie de Juillet que se concrétise la volonté de conservation des œuvres d'art, avec la création en 1830 du premier poste d'inspecteur général des monuments historiques. Il faudra encore attendre un demi-siècle pour que, en 1887, une première loi sur les monuments historiques soit promulguée et qui permette le classement des objets qui présentent un intérêt du point de vue de l'histoire ou de l'histoire de Loire, de l'art. Un intérêt national s'entend. Enfin, la loi qui est réellement fondatrice des monuments historiques est la loi de 1913, toujours en vigueur aujourd'hui et incluse dans le Code du patrimoine. Donc, pour vous montrer l'ancienneté de la protection au titre des monuments historiques, voici le reliquaire monstrance de Rigarda du XIVe siècle, qui est un des premiers objets en France à avoir été classé en 1892. Ce petit édifice de style gothique, merveille d'orfèvrerie, en témoigne les immenses ailes déployées des anges, autrefois ornées des mots translucides, et qui présente sur les côtés latéraux les effigies de la patronne de l'église, Sainte Lalie, et celle de Saint-Martin, saint particulièrement vénéré dans les Pyrénées-Orientales, comme en témoigne depuis le XIe siècle le monastère de Saint-Martin du Canigou. De la même époque, le chef reliquaire de Saint-Benoît, conservé à Saint-Polycarpe dans l'Aude, classé en 1911, autre chef-d'œuvre particulièrement saisissant. Il inaugure la série des reliquaires morphologiques que vous trouverez dans l'ouvrage, comme ce bras reliquaire de Saint-Léger du Malzieu, en Lozère, objet du XIIIe siècle, qui a été redécouvert par la conservatrice des antiquités objets d'art Isabelle Darnasse, très récemment, en 2005, dans le grenier du presbytère. Pour vous expliquer que cette tradition de classer des objets perdure et tout n'est pas redécouvert, tout n'est pas classé, il reste encore beaucoup d'objets à découvrir. Mais d'ores et déjà, plus de 1500 pièces d'orfèvrerie sont protégées en Languedoc-Roussillon au titre des monuments historiques et conservées donc dans les cinq départements. Ce sont des objets sacrés au sens de Marcel Mauss, c'est-à-dire tout ce qu'il faut soustraire au marché pour pouvoir vendre le reste. Et vous savez comme moi que ce sont des objets très convoités, il suffit d'aller sur eBay pour voir tous les jours des pièces d'orfèvrerie en vente. Comme le montre ce panneau de retable, le service des monuments historiques a le souci de conserver in situ, de ne pas retirer l'objet de son contexte, autant que faire se peut. Ces objets participent à la fonction du monument ou à son décor et ils sont indissociables de l'église qui les abrite. Delphine Christophe a souligné aussi le rôle des monuments historiques dans la sauvegarde de ces trésors d'église, désormais trésors nationaux. Particulièrement vulnérables en raison de leur taille et de la préciosité des matériaux qui les composent, il appartient au service des monuments historiques d'œuvrer aux côtés des propriétaires et des affectataires à leur mise en sécurité tout en veillant au respect de l'affectation cultuelle permanente et prééminente selon les termes de la loi. En premier lieu, qu'est-ce qu'un trésor d'église ? Dont les pièces d'orfèvrerie sont l'une des composantes majeures. Un trésor désigne à la fois l'ensemble des objets de valeur destinés à l'usage du culte, aussi bien que la salle destinée à les contenir, que le lieu consacré à leur conservation. Un trésor d'église, donc, est composé de différents types d'œuvres, les ex-voto, comme nous l'avons vu avec la sardine, offertes à la paroisse, ou associées aux rituels religieux, comme la messe, les processions liées au culte des reliques et au culte du Saint-Sacrement. Ces rituels processionnels mettent en valeur les objets liturgiques qui en constituent le nécessaire apparat. Alors, de tout temps, les processions ont été organisées avec les statues ou les reliques des saints, soit pour les honorer, soit pour obtenir par leur intercession des grâces ou protections. Qu'il s'agisse d'obtenir la pluie, d'éviter une épidémie ou d'arrêter un incendie, les processions sont l'expression publique et solennelle d'une dévotion collective censée obtenir la miséricorde de Dieu. Donc deux exemples pour illustrer ce culte des saints. Vous avez à gauche le buste reliquaire dit de Saint Blaise, conservé à Fanjeaux, qui porte autour du cou un amict orné de losanges à motifs floraux, ciselés et de cabochons de pierres précieuses. C'est probablement en fait à l'origine le buste de Saint Godéric, protecteur catalan des agriculteurs, très vénéré aussi dans l'Aude, auquel on aurait rajouté postérieurement une mitre épiscopale. À droite, vous avez la statue reliquaire de Saint-Martin de Limoux, empreinte de réalisme, chef-d'œuvre de l'orfèvrerie méridionale du XVe siècle, où le Saint-Évêque auréolé est revêtu des insignes pontificaux, la mitre, l'anneau, une améthyste qui porte sur l'annulaire droit, et il porte également la crosse à la hampe torsadée et au crosseron orné de flammes. Et puisque nous sommes à Montpellier, bien sûr, la statue reliquaire de Saint-Roch, Saint-Montpelliérain, une œuvre du XIXe siècle, qui a été classée en 2003 et qui est portée en procession lors de la fête du Saint le 16 août. Plus encore que les pratiques liées au culte des reliques, celles relatives au culte du Saint-Sacrement permettent-elles de comprendre l'apparition puis l'évolution de ces objets et leur mise en scène? Cette image évoque la plus majestueuse de toutes les processions chrétiennes, celle en l'honneur du Saint-Sacrement ou Fête Dieu. Depuis son institution en 1316, cette fête est la plus solennelle puisqu'il s'agit d'honorer Dieu lui-même. Elle pouvait aussi servir à obtenir une protection, comme ici, à arrêter un incendie. Ce grand tableau, peint en 1685, est un ex-voto en l'honneur de Notre-Dame de Marseille à Limoux, où toute la ville, à commencer par les consuls et les autorités, prosternées derrière le dé de procession, observe l'effet de l'ostensoir brandi par le prêtre en direction des flammes. Toute la société, en grande pompe, doit figurer avec les insignes distinctifs des dignités propres à chacun. Les clercs et les pieux laïcs réunis en confrérie ont à cœur d'y paraître, munis de bâtons plus ouvragés et ornés les uns que les autres. Un autre exemple un peu plus récent, une photographie de la procession du Saint-Sacrement organisée par la confrérie des pénitents blancs de Montpellier vers 1930. Et là, je remercie le prieur des pénitents, Guillaume Van den Hout, de m'avoir transmis cette photographie. Chacun tient à affirmer son rôle autour du dé de procession sous lequel le prêtre porte le soleil ou ostensoir renfermant le Saint des Saints. Alors très rapidement, un aperçu du corpus lié, des œuvres liées à la procession. Donc des ostensoirs dont ces dessins illustrent bien l'évolution de la forme depuis les monstrances conservées dans des tours eucharistiques comme celle de Caudalet que vous avez ici à droite, jusqu'à l'ostensoir soleil, dans celui du XVIIIe siècle de l'abbaye de la Grâce, à gauche, ici, est un bel exemple, ou encore celui à droite, offert par Chaptal, médecin montpelliérain puis ministre, offert à la cathédrale de Mende en 1802. Vous savez que Chaptal était originaire d'un petit village, Nogaret, tout près de Mende. Après les ostensoirs, les croix de procession. La croix de procession précède toujours le célébrant, vous l'avez vu, symbolisant ainsi que le seul chemin à suivre est celui du Christ. Et elles sont très nombreuses dans l'ouvrage. Là, je vous ai mis la croix de Saint-Géniès de Fontedy du XVIe siècle, qui est parce qu'elle est particulièrement remarquable de par les quatre médaillons qui encadrent la croix. Alors, à la droite du Christ, qui est au centre, vous avez Dieu le Père. À sa gauche, le symbole christique du pélican, nourrissant ses petits. En haut, la résurrection de Lazare. Et en bas, la Vierge de douleur au pied de la croix. Parmi les objets liés à la procession, les lanternes et les bâtons, portés par les membres d'une paroisse et alors ornés d'une statuette. Ici, la statuette est celle de Saint-Jean-Baptiste. Ce sont deux œuvres qui sont conservées dans le trésor d'orfèvrerie que vous connaissez certainement, à Pézenas, trésor d'orfèvrerie réalisé par le service des monuments historiques. Ou les bâtons peuvent être aussi appelés masses, comme celles que vous avez à gauche, qui sont des masses de procession. Ça, ce sont les masses des prieurs, des pénitents blancs de Montpellier. Et vous avez également, autre dernier objet de porté en procession, les bâtons de procession, emblème de confrérie des pénitents. Ici, vous avez les bâtons des confréries des pénitents bleus de l'Odève, avec au centre l'emblème de la confrérie, la colombe du Saint-Esprit. Ah oui, j'oubliais un petit dernier objet, assez curieux et absolument rarissime, qui se trouve dans le Gard, à Beaucaire, un panonceau de cierges, ici à l'effigie de Saint-Roch. Il date du XVIIIe siècle, et c'est un petit panneau qui était fixé au milieu d'un cierge de procession, qui représentait le saint patron de la paroisse. Et à l'arrière, une poignée permettait de porter plus facilement le cierge. On pourrait ainsi décliner tous les types d'œuvres que l'on trouve dans les trésors d'église, mais le temps nous est compté, donc je vais faire un petit raccourci. Mais en fait, ces œuvres ne sont vues du public que lors des rituels ou cérémonies religieuses. On les retrouve parfois sur des tableaux, comme vous voyez ici à votre gauche le Christ au jardin des Oliviers et l'ange qui vient, qui porte le calice, qui symbolise un petit peu l'acceptation de son sort, hein, le sort d'accepter la mort, de se sacrifier pour le bien des hommes. Et à droite, vous avez une effigie d'un tableau qui se trouve dans une église de Montpellier qui représente Saint François Xavier, dont l'attribut est l'ostensoir. Je ne raconterai pas l'histoire, mais enfin, il marchait sur les eaux, l'ostensoir à la main, pour aller évangéliser le peuple à Kiev. Et il était honoré pour aider à mieux mourir. Et c'est pour ça qu'on le voit entouré de personnes mourantes. Donc, au-delà des objets de procession, on distingue trois types d'objets. Vous avez vu les reliquaires, et je vous montre ici les reliquaires qui sont souvent aussi précieux que les reliques qu'ils contiennent. Là, vous avez les reliques de Saint Fulcran de l'Odève. Les ex-voto en tout genre, vous avez vu la sardine, là vous avez deux merveilleux exemples du XVIIe siècle. À droite, l'ex-voto qui a été donné par une riche famille à l'église d'Illieux-sur-Tay dans les Pyrénées-Orientales et qui représente la Vierge de Guadeloupe. Vous voyez qu'elle est entourée des emblèmes du soleil et de la lune. Et à gauche, vous pouvez remarquer l'admirable travail de ciselure de la chevelure. Mais là, je n'en dis pas plus, car Frédéric vous en parlera longuement. Voilà, parmi deux autres exemples de bijoux qui compose ces trésors, là vous avez le chapeau en argent dit Saint-Jacques et une magnifique couronne dite de la Vierge qui est aussi une donation et vous voyez qu'elle est faite d'objets, de bijoux, de grenats, de bijoux en or et de grenats. Et enfin, La dernière catégorie d'objets est ce que l'on appelle communément la vaisselle liturgique. Et elle est d'une grande variété. Pixies de calice et patène, encensoirs, navettes, etc. Quelques exemples juste pour vous montrer la variété et la richesse des formes. Alors à gauche, le ciboire qui renferme les hosties consacrées et celui de Prunet du XIIIe siècle. Il est orné d'émaux. Et à droite, vous avez le ciboire de l'Hôtel Dieu de Nîmes du XVIIe siècle, dû à un artiste, un des rares orfèvres nîmois que l'on connaisse, Jean Fabre. Et toujours à l'Hôtel Dieu et de la même époque, les burettes avec leurs plateaux contenant l'eau et le vin nécessaires au rituel de la messe. Et enfin, un dernier objet particulièrement rare, un exemplaire unique du XVIIIe, conservé à Saint-Chinian, une colombe de baptême comportant les logettes pour les huiles saintes et pour l'eau baptismale. Très rapidement, si je ne vous ennuie pas, avant de passer à l'étude des poinçons, hein, la seconde partie de ma conférence, je vais brosserai à grands traits l'histoire des formes et l'évolution stylistique. En ce qui concerne les reliquaires, nous avons vu les pièces anthropomorphes, bras et bustes reliquaires. Plus rares sont les reliquaires portatifs, comme celui-ci. C'est le reliquaire pendentif d'Elne. Il date du XIVe et est orné d'un camé et de grenats. Mais le type de reliquaire le plus courant et certainement le plus ancien est la châsse. La châsse héritée du tombeau antique qui imite un édifice, la maison du défunt. C'est un modèle très répandu dont témoigne surtout l'inventaire des trésors d'église, car les œuvres conservées sont rares. Vous le savez, depuis les guerres de religion, la révolution, etc., enfin, les édits somptuaires, l'orfèvrerie d'église était aussi une réserve monétaire, donc beaucoup d'œuvres médiévales ont disparu. Le département des Pyrénées-Orientales est celui qui a le conservé le plus d'œuvres médiévales parce qu'il n'a été rattaché à la France qu'en 1659, donc a été épargné des guerres de religion. Donc voilà, la Révolution n'a finalement été qu'un épisode, le dernier épisode d'une lente élimination. Donc cette châsse, objet extrêmement rare, date du XIIe siècle et provient de l'abbaye de Cassan à Rougen. Elle a été sauvegardée par la Société archéologique de Montpellier, qui, depuis 1833, œuvre à la sauvegarde des œuvres d'art. C'est une pièce d'exception qui, jusqu'ici, n'avait jamais étudié. Et la majorité des pièces d'orfèvrerie qui sont dans ce livre, je crois qu'il y en a 216 exactement, n'ont jamais été étudiées, ce sont des publications originales, particulièrement celle-ci, qui vient d'être étudiée et redécouverte par Delphine Christophe. Cette œuvre démontre que l'œuvre de Limoges connaît une diffusion et un succès grandissant dans toute l'Europe occidentale. Vous voyez à droite le tétramorphe, le Christ en majesté entouré des quatre animaux qui symbolisent les évangélistes. Comme l'explique le dessin suivant, et Jérôme Farigoul en parle très bien dans l'ouvrage, Jérôme Farigoul qui est conservateur au musée Fabre, le dessin circulant d'atelier en atelier est un élément fondamental pour la diffusion des modèles, surtout à partir du XVIIe siècle, et ce jusqu'au XIXe siècle. C'est un dessin de Jean-Baptiste Lassus pour la châsse de Sainte Radegonde, présenté à Paris en 1855 à l'Exposition universelle. Raccourci saisissant du Moyen-Âge au XIXe, qui montre que sur le plan stylistique, le XIXe joue en permanence sur un retour et une réinterprétation des formes du passé. Toujours pour juger de la circulation des modèles et de l'évolution des formes dont le dessin sera le médium, mais cette fois à partir du corpus que constitue la vaisselle liturgique, les calices sont un très bon exemple. Le calice dont l'archétype est la coupe dont s'est servi le Christ lors de la scène est de par son rôle indispensable au sacrifice de la messe, l'objet le plus représenté dans les églises. Avec le XVIe siècle, perdure une grammaire stylistique, là je décris l'objet de gauche, faite de clochetons, pinacles, alors que des motifs plus renaissants apparaissent. Le calice de l'église Saint-Jacques de Perpignan, daté de 1516, illustre bien cette période, toujours à gauche, avec sur la tige la reprise d'un édifice gothique à deux étages, avec ses arcatures d'ogives, ses flèches et même ses gargouilles. Tandis que sur le pied et la coupe se répand un jeu nouveau d'entrelacs floraux et de guirlandes végétales. Le corpus antérieur au XVIIe montre aussi l'importance de la diffusion de l'orfèvrerie parisienne dans toutes les régions du royaume, comme les œuvres des Marcel, crochets au pigeard. Et le calice que vous avez à droite est un calice qui se trouve dans le petit village du Malzieu en Lozère, date de 1656. Et c'est Michel Benbenet-Privat qui a redécouvert, qui est spécialiste de l'orfèvrerie Renaissance et qui est conservateur au Louvre, et qui a reconnu sur ce calice les poinçons de Charles Pijard, éminent orfèvre parisien. Isabelle Darnas, la conservatrice, a alors cherché dans les archives. Elle a retrouvé en effet que cette œuvre avait été donnée par un illustre personnage originaire du Malzieu. Voilà, ça c'est un petit exemple pour vous montrer que la recherche est le fruit de... Enfin, toutes ces découvertes sont le fruit d'un travail de recherche assez important. Donc le dynamisme commercial de la capitale s'est exprimé par l'association d'orfèvres parisiens avec leurs correspondants provinciaux. C'est sans doute pourquoi les œuvres religieuses apparaissent parfois si stéréotypées et si peu inventives en comparaison avec la production civile. Alors vous le voyez ici, sur toute la période qui s'étend du XVe siècle au début du XVIIe siècle, les calices français évoluent peu. Ces cinq exemples le démontrent. Ils conservent un pied à lobe, un fût cylindrique scandé par un nœud sphérique orné de bossettes circulaires, une coupe large et basse sans fausse coupe. Les bossettes du nœud, ornées de têtes des apôtres et de Jésus gravées ou émaillées, constituent les seuls éléments figuratifs de ce décor, dont l'iconographie reste assez pauvre. Contrairement aux idées reçues, les modèles en série existaient dès le Moyen-Âge. On fait un petit saut dans le temps. Si au XVIIIe siècle, cette perçue une volonté d'aller vers un art plus mouvementé, les orfèvres montpelliérains, languedociens, si vous voulez, conservent une certaine rigueur. Vous avez à gauche le calice de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, dû à l'orfèvre Pierre Miston, et à droite, celui de Jean Bellon, ce sont deux grands noms d'orfèvres montpelliérains du XVIIIe siècle, celui de Jean Bellon, qui est conservé à la cathédrale de Carcassonne. Ils adoptent tous les deux une base en accolade, ils sont marqués d'un nœud en balustre très prononcé. Comme vous le voyez, les motifs proéminents de la période précédente sont abandonnés au profit d'ornements en moins haut relief, qui soulignent l'architecture des lignes et concourent à l'élégance de la forme. Coquillage volute, canon enroulé du pied jusqu'à la fausse coupe. Le XIXe siècle a aussi été très créatif, et je terminerai par cette œuvre-là, qui est la crosse de Monseigneur de Cabrières, évêque montpelliérain des plus célèbres, qui a été réalisée au début du XXe siècle, et qui est un exemple de raffinement, avec sa polychromie émaillée dans le style fleuri du gothique flamboyant. Donc, après les œuvres, dont je vous ai donné, je crois, un large aperçu, les hommes qui les ont fabriquées. Alors, en effet, les hommes, je dis les hommes parce que peu de femmes dans le métier d'orfèvre. Dans ce métier très organisé et réglementé par une corporation puissante qui défendait ses privilèges face à l'autorité du pouvoir royal. Alors, quelques mots sur ce milieu des orfèvres assez particulier. Devenir orfèvre n'était pas chose facile. Un numerus clausus limitait le nombre de places à 12. 12 pour Montpellier, par exemple. Et à chaque vacances, priorité était donnée aux fils de maître. Les veuves d'orfèvres, si elles avaient le droit de reprendre la charge du mari, c'était en surnombre. Leur siège n'était pas transmissible. Et leur poinçon était obligatoirement marqué de la lettre V. Vous voyez ici, les poinçons des veuves Lauré et Durand, car les archives du XVIIIe siècle abondent sur ces deux orfèvresses, je crois que ça se dit, et sur leur combat pour faire évoluer leurs droits. Les difficultés d'accession à la maîtrise. Pour être orfèvre, il fallait passer par 8 années d'apprentissage, 3 ans de compagnonnage et réaliser un chef-d'œuvre avant d'être agréé par la corporation. Les préférences pour les fils de maître, neveux ou alliés favoriseront l'endogamie et donneront lieu à la constitution de véritables dynasties. Alors, juste un seul exemple, là il faut suivre, hein. L'orfèvre Jean Chauvet épouse la fille de l'orfèvre Thomas Fayet, dont les 3 filles seront orfèvres, et dont le petit-fils Abraham épousera la fille de l'orfèvre Étienne Chirac, et ils auront 9 enfants, dont les fils deviendront orfèvres. Donc vous voyez, en plus les orfèvres, c'était des communautés, étaient regroupées dans un même quartier, dont témoigne à Montpellier, vous le savez aussi bien que moi, la rue de l'Argenterie, à Perpignan, la calée des Argenteurs, et à Paris, le quai des Orfèvres. Le patron de leur corporation était Saint-Éloi. Alors vous voyez sur ce tableau ex voto qui est conservé dans l'église de Saint-Mathieu de Montpellier, mais on le voit très très mal, tout en haut, il y a les attributs, les outils des orfèvres, mais on ne voit pas le Saint-Éloi qui était le patron protecteur des orfèvres. À gauche, vous avez le patron de la corporation des boulangers, l'évêque Saint-Honoré. Et à droite, vous avez Sainte-Eulalie, patronne des menuisiers. Et en bas, Saint-Crépin et Saint-Crépinien, patronne des cordonniers. Donc de tout temps, le métier d'orfèvre a été étroitement surveillé afin de limiter les fraudes et les contrefaçons. Et ce contrôle s'appuie essentiellement sur le marquage des œuvres par les poinçons. Comment s'y retrouver dans cette multitude des poinçons qui ont changé des centaines de fois suivant l'évolution de la réglementation? Ils étaient inscrits sur des planches en cuivre étramé et sur des registres. Mais pour le Languedoc-Roussillon, la plupart ont disparu. Les 2 que vous allez voir ici sont conservés aux archives départementales de l'Hérault. Et je me remercie Madame Miguet de nous les avoir transmises. Vous voyez ici une plaque d'inculpation de poinçons d'ancien régime. Ce sont les poinçons en vigueur au XVIIIe siècle. Et ici, une plaque post-révolutionnaire, puisque dans le domaine de l'orfèvrerie, la révolution a marqué une grande césure dans le métier. Et vous voyez ici une des rares plaques des orfèvres du début du XIXe siècle conservée. De plus, la lecture des empreintes sur les œuvres est souvent très difficile. Vous voyez, les poinçons, ce sont, je ne sais pas si vous avez arrivé à distinguer, les petites marques que vous voyez à gauche des noms. La lecture, donc, est souvent très difficile, bien que ces empreintes des poinçons soient inscrites à des endroits bien précis pour chaque type d'œuvre. Sous le pied pour les calices d'Ancien Régime, par exemple, au revers de la gloire pour les ossuaires, etc. Alors cet ouvrage présente l'état actuel de la recherche sur les poinçons d'orfèvre du Languedoc-Roussillon. Et quand on parle d'orfèvrerie en Languedoc-Roussillon, il faut bien évidemment rendre hommage à Jean Tuile, que vous voyez ici à gauche, un portrait d'André Bondel, photographié par le photographe Michel Descossi, qui, dans les années 50, a été le fondateur de la connaissance des poinçons que nous avons aujourd'hui, en tout cas pour l'Ancien Régime. Et il a parcouru avec l'abbé Giry toutes les églises de la région, et c'est vraiment un grand découvreur. Mais son travail a été prolongé ensuite par les conservateurs des antiquités et objets d'art du service des monuments historiques, et notamment dans le Roussillon par les travaux de Louis Osseil. Et pour les œuvres post-révolutionnaires, par Jacques Gaspard, que vous voyez à droite, qui était contrôleur et directeur du bureau de garantie de Montpellier. Le bureau de garantie a remplacé la régie générale des aides et la ferme du roi. Donc le service de leur garantie était le service qui contrôlait la fabrication des œuvres en métal précieux. et vous le voyez ici, autour de la, enfin, assis à la table, à une table qu'on appelle le tas de marques, qui voyez est vidé des deux côtés, l'un pour le contrôleur qui a posé à l'aide d'une bigorne le poinçon sur l'objet, et en face il y avait le bijoutier ou l'orfèvre qui était venu présenter son objet. Donc au départ, l'orfèvrerie, l'étude de l'orfèvrerie était réservée à quelques passionnés un petit peu fous, mais les recherches, grâce à ces découvreurs qui existaient dans chaque région de France, les recherches sur l'orfèvrerie se sont multipliées avec la vaste entreprise nationale de publication des dictionnaires de poinçons par le ministère de la Culture et plus particulièrement par le service de l'inventaire. Donc cet ouvrage témoigne de ses nombreux travaux dont l'importante bibliographie est le reflet. Alors, Jean Tuile est le premier donc à avoir souligné le rôle prépondérant de Montpellier dans l'histoire de l'orfèvrerie nationale. Et ça, je crois que c'est une chose que peu de gens savent. La Corporation des Argentiers de Montpellier, dont les premiers statuts furent fixés au XIIe siècle, est la première à avoir mis en usage le poinçon de ville. C'est sous Jacques Ier d'Aragon, dit le Conquérant, roi d'Aragon, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier de 1213 à 1276, qu'apparaît vers 1220 le premier poinçon de ville, les lettres M-O-P, que vous distinguez juste à gauche de la main, signifiant Montpellier. En 1296, le roi de Majorque, Jacques II, accorde à la Corporation des Argentaires de Perpignan ses premiers statuts, en étendant à cette ville les prescriptions, déjà valables à Montpellier, et les premiers poinçons de ville de Perpignan seront soit les lettres PP, on rencontre les deux, parce que aussi on avance en fonction de la connaissance des œuvres. Chaque fois qu'on retrouve une nouvelle œuvre, ça nous permet d'aller plus loin dans notre connaissance des poinçons. Donc soit PP, soit une croix PP et IA. E-Y-A. Alors, une œuvre du XIVe siècle témoigne des échanges entre le Languedoc et le Roussillon, la précieuse croix conservée à Aurélia, achetée pour le monastère de Saint-Martin du Canigou. Et elle est inculpée au poinçon montpelliérain, M.O.P. Une autre œuvre, parce qu'il y en a très peu d'œuvres parvenues jusqu'à nous avec ce poinçon, se trouve à Roncevaux, en Espagne. Elle est appelée l'échiquier de Charlemagne. Et en fait, c'est un reliquaire du XIVe siècle. Cette exceptionnelle pièce d'orfèvrerie et d'émaillerie montre le rayonnement des ateliers montpelliérains, des ateliers d'orfèvrerie certes, mais aussi ce qui est encore moins connu, c'est que Montpellier était un grand centre d'émaillerie. Cette pièce aussi montre les rapports que Montpellier ne cessa d'entretenir avec l'Espagne, de par ses attaches évidemment aragonaises. Je vous montre ensuite une œuvre marquée au poinçon de Perpignan. C'est le bras reliquaire de Saint-Cernin du XIVe siècle, conservé à Vernay-les-Bains. Les bustes reliquaires de Saint-Abdon et Senin, ce sont des saints d'origine perse, qui sont de l'orfèvre perpignanais Miguel Alerigue, qui a signé là son œuvre en toutes lettres sur les socles des reliquaires, ce qui est particulièrement rare. Le poinçon de ville sera progressivement remplacé par la lettre date, qu'on appellera aussi poinçon de titre, et Montpellier sera encore une fois la première ville à le réglementer en 1427, instaurant le contrôle de la profession dont Paris prendra modèle en 1461, et qui sera généralisé encore un demi-siècle après par la réglementation des monnaies de France. Donc, l'ouvrage le plus ancien portant cette lettre date, la première lettre date qu'on connaisse, est inculpé sur ce buste reliquaire de Saint-Jean-Baptiste conservé à l'abbaye de Carente. En haut, vous avez le poinçon du maître orfèvre, I.M., qui sont les initiales de Jacques Morel, et au-dessous, la lettre couronnée. Je crois que c'est un Q. Je vois, je l'ai pas marqué, je me souviens plus. Non, c'est une lettre P. La lettre P, fleur-de-lysée et couronnée, qui est donc le premier poinçon de ville connu, le plus ancien poinçon de ville. Après, bien sûr, la lettre mob médiévale. Si le génie mercantile de Jacques Coeur, grand argentier, comme vous le savez, de Charles VII, ajoute à la prospérité de Montpellier jusqu'au milieu du XVe siècle, la renommée de Toulouse supplantera celle de Montpellier. L'œuvre la plus ancienne signée d'un orfèvre toulousain est le reliquaire de Fangeau, que vous avez déjà vu, et qui est dû à l'orfèvre toulousain Pierre Bocot. Il date des années 1400. J'insiste sur l'importance de ces trois dernières œuvres, de ces trois dernières signatures, Alleric, Bocot et Morel, car très rares sont les orfèvres du Moyen-Âge connus. Après le Moyen-Âge, les orfèvres dépendront des généralités, qui étaient des circonscriptions administratives majeures qui ne correspondent pas du tout à notre découpage territorial actuel. Elle est contrôlée par l'intermédiaire du juge des monnaies, la fabrication des ouvrages en métal précieux. Alors, pour le Languedoc, qui, vous savez, était beaucoup plus grand, beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui, il y avait deux généralités. La généralité de Montpellier et celle de Toulouse, créée en 1542. Elle se composait de diocèses civils, cette fois, appelées aussi recettes. Alors, celle de Montpellier, je ne vais pas citer toutes les recettes, comprenez bien sûr Montpellier, Mende, Nîmes, Aubenas, Le Puy, et celle de Toulouse ralliée Narbonne, Limoux, Carcassonne. Donc pour le Roussillon annexé à la France en 1659, une seule généralité, la généralité de Perpignan, qui sera créée en 1660. C'est pour vous montrer un petit peu ça, la complexité de l'étude des poinçons. L'impôt sur la fabrication des objets en métal précieux était soumis au régime général de la ferme du roi, avec une multitude de fermiers et sous-fermiers pour chaque jurande. Une ville avait le droit d'avoir une jurande à partir de 3 mètres orfèvres. Donc chaque fermier changeait tous les 6 ans, et chaque fois le nouveau fermier renouvelait ses poinçons, pour éviter la fraude bien évidemment. Donc sur 2 siècles, ne serait-ce que sur 2 siècles, 17 et 18e siècle, les poinçons ont changé 27 fois. D'où le nombre incalculable de poinçons. Et cela aurait pu être une excellente source de datation si les registres, qui marquaient bien les correspondances avec les noms des orfèvres, leurs dates, etc., n'avaient disparu. Et aussi si les orfèvres respectaient la loi en inculpant leurs poinçons, ce qui n'était pas toujours le cas, et les archives témoignent d'ailleurs de conflits entre les gardes jurés, qui étaient des maîtres orfèvres, et qui représentaient donc des orfèvres, et les représentants du roi, fermiers et juges des monnaies. Donc pour ces raisons administratives, les poinçons changent constamment. Mais on peut dire qu'à la fin du XVIIe et jusqu'au XIXe siècle, les œuvres devraient porter 3 poinçons, permettant d'apprécier bien sûr la qualité du travail. Ah, attendez, je vais trop vite. Voilà. 3 poinçons. Le poinçon de maître, identifiant l'orfèvre. C'est en quelque sorte la carte d'identité de l'orfèvre. Le poinçon de titre, certifiant la teneur légale en métal fin, hein, puisque l'argent est toujours composé d'un alliage. Et le poinçon de la marque ou de garantie, attestant du paiement de l'impôt sur le commerce des métaux précieux. Alors le poinçon de maître, vous en avez un qui est à l'horizontale, hein, normalement il doit être vertical, ici à droite. Le poinçon de maître a été créé en 1355 et il est en général constitué des initiales des prénoms et noms de l'orfèvre. Là vous avez l'exemple de Pierre Miston, PM, avec entre les deux un chardon. Un chardon pourquoi ? Parce qu'il était lorrain. Donc il y a toujours un symbole qui distingue qui distingue les orfèvres, et c'est un petit peu comme le langage héraldique. Donc évidemment, sous l'Ancien Régime, ces poinçons étaient la plupart du temps de façon quasi systématique, étaient ajoutées la fleur de lys et la couronne. Le poinçon de titre ou lettre date dont je vous ai parlé tout à l'heure et était aussi appelé poinçon de jurande ou de communauté, est un poinçon alphabétique annuel créé en 1427 auquel sera souvent associé le monogramme de la ville. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, là, vous avez le poinçon de ville, la lettre date, hein, ce qui remplace le poinçon de ville, la lettre date de Montpellier avec les lettres MEPL, mais on peut rencontrer NAR pour Narbonne, MDE pour Mende, etc. BEZI pour Béziers. Et donc, je l'ai déjà dit, c'est ce poinçon qui remplace le poinçon de ville. Enfin, le troisième type de poinçon que vous rencontrez sur les pièces est le poinçon de la marque ou de garantie créé en 1672 et qui est un poinçon attribué au capital monétaire de chaque généralité. C'est-à-dire que c'est un seul poinçon équivalent, le même pour toute la France et pas seulement là pour le Languedoc-Roussillon. Il s'agit de la lettre M couronnée avec trois fleurs de lys. Vous voyez le dessin à droite et vous la voyez en haut sur un calice de Abraham Fayet, et c'est la seule œuvre sur laquelle on a trouvé à poser ce poinçon. Ce système, la fleur de lys, le M à la fleur de lys, a duré quelques années, mais très peu de temps finalement, puisque il a été modifié en 1688, divisant ce poinçon de la marque en deux poinçons, le poinçon de charge et de décharge. Alors voilà, pour terminer, quelques exemples pour vous familiariser avec la lecture de ces poinçons. Alors, vous avez là une fourchette du XVIIIe siècle qui comporte les quatre poinçons réglementaires. Vous voyez tout à fait en bas le poinçon de Pierre Maudet, le maître orfèvre à Béziers, le poinçon de la ville de Béziers, avec la lettre date X, qui correspond à l'année 1738, au-dessus, le poinçon de charge, c'est-à-dire le poinçon de charge était inculpé sur l'objet à peine ébauché, qui est une pomme couronnée, et le poinçon de décharge qui était inculpé une fois l'objet terminé au moment où on devait payer les droits. Et il s'agit là d'une croix potencée. Là, vous avez une pièce de Jean Fabre, les poinçons de Jean Fabre, les lettres I et F. Alors, Nîmes, c'était un petit peu particulier. Ils ont eu deux lettres date. Une à partir de 1674, qui est un crocodile sous un L couronné. Et une autre qui a été en vigueur jusqu'en 1674. Qui est le chiffre 3 et une fleur de lys. Donc, voyez, le chiffre 3, c'est au centre, surmonté de la fleur de lys. Pour le crocodile, il faut me croire sur parole, mais ça vous montre un petit peu la difficulté de lecture des poinçons. Un autre exemple. Alors, une croix d'autel de Lozère, due à l'orfèvre lozérien Jean Marcet, vous voyez les lettres I, MA, RCE, au-dessus MDB, bande la lettre date, et encore au-dessus le poinçon de charge, la lettre N couronnée. Là, l'orfèvre n'avait pas dû payer les droits puisqu'on n'a pas le poinçon de décharge. Un autre exemple d'un orfèvre montpelliérain d'Artis, vous voyez son poinçon. Les lettres P et D, entre les deux, U de flèche, un dard de d'artis. Et les autres poinçons, on voit le poinçon de décharge, la fleur de lys, mais on devine que c'est un N, ce qui permet de dater la lettre date de l'époque, des années en vigueur entre 1688 et 1693. Voilà le poinçon de Pierre Miston, encore une fois. Les poinçons au 18e d'Antoine Chéneau, vous voyez. Là, ils peuvent écrire aussi leur nom en toutes lettres. Chéneau. Toujours au-dessus, c'est le poinçon de charge, la lettre B. Fleur de Lys. Au-dessus, le poinçon, la lettre date de Béziers avec un Q. Vous voyez, je crois que j'ai été déjà tellement longue que je vais aller un peu vite sur tous les poinçons restants. Ça, c'est l'orfèvre Bachung. Toujours pareil, poinçon de maître, poinçon de charge, décharge et lettre date. Là, je crois que c'est deux exemples de orfèvre de Narbonne, François Le Sûr. Alors lui, c'était un maître orfèvre abonné. Il ne devait pas habiter Narbonne, donc il n'était pas obligé d'insculper les poinçons de charge, de décharge. Il suffisait d'apposer trois fois son poinçon de maître. Voilà notre orfèvre Andrien Denis de la ville de Limoux. Donc le poinçon de la lettre date, là, pour Limoux, c'est un cas aussi un peu particulier. Il mettait le nom de la ville en toutes lettres. Nicolas Delaporte, c'est un autre grand orfèvre narbonnais que l'on retrouve dans plusieurs départements de la région, là, comme ici dans les Pyrénées-Orientales. Et aussi, bien sûr, voilà, toujours pareil, le poinçon de maître et la lettre date. Et enfin, le poinçon de l'orfèvre Chandezon, avec le différend monétaire de la monnaie de Perpignan qui a été créée en 1710, la lettre Q. Et c'est un symbole que l'on voit assez rarement. Donc je passerai sur les poinçons de post-révolutionnaires. Vous voyez que le poinçon du maître orfèvre, qu'on n'appelle plus d'ailleurs maître orfèvre, mais fabricant, n'est plus couronné, mais se trouve dans un losange. Vous voyez les lettres XD avec le dard en bas. Et les poinçons de titre, en haut, il est à l'envers, c'est un coq. Et en bas, c'est la tête d'un vieillard. Avec entouré, il est à l'envers aussi, entouré des lettres 3 et 8 qui sont le numéro minéralogique du bureau de garantie de Montpellier. Il y avait environ 150 bureaux de garantie en France qui remplaçaient donc la ferme du roi. Et vous avez ces poinçons là apposés sur le reliquaire de Saint-Fulcran de l'Audève. Ici, une plaque d'inculpation donc de ces poinçons, de ces nouveaux poinçons de garantie et de titre. Ces poinçons donc créés par l'État maintenant. Ici, vous avez un exemple, et ça c'est pour laisser rapidement la parole à Frédéric, un exemple d'outils. Ce sont des poinçons, et comme des petits crayons, et au bout, il y avait la marque des poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Et ces empreintes étaient apposées à l'aide d'une bigorne, comme je l'ai montré avec M. Gaspard, sur les œuvres. Les plaques, les poinçons étaient conservés dans ce coffre aux trois serrures, qui ne pouvait être ouvert que par les trois personnes en même temps, présentes en même temps au bureau de garantie, les sayeurs qui vérifiaient à l'aide de procédés chimiques le titre de l'argent, le contrôleur qui poinçonnait les œuvres et le receveur qui percevait les droits. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue et je cède avec plaisir la place.
Merci Hélène. Voilà, donc en fait j'enchaîne directement. Donc comme tout ça est une histoire de gestes, donc les gestes de l'orfèvre. Donc ça passe du martelage que vous voyez en haut. Alors je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Voilà. Donc le martelage de la pièce, donc avec le marteau. Ensuite la soudure. Donc je vais vous parler essentiellement de restauration. Parfois quand on me demande « Ah, vous avez ressoudé cet objet ?» Non, non, non. Je ne ressoude pas. Par contre, l'orfèvre, lui, a besoin de souder. Donc, ce sont des gestes totalement différents. Après, l'orfèvre, lui, passe au polissage, donc avec un petit micro-tour et puis des petites gommes. Donc ça, c'est pour les méthodes récentes, évidemment. Et puis ensuite, donc le lustrage avec le tour et puis de la pâte à polir. Et enfin, Hélène en a beaucoup parlé et c'est ce qui donne les œuvres les plus magnifiques. La ciselure, donc avec les petits burins et le marteau, donc c'est ça qui fait de très beaux décors. Donc tout ceci, ce sont les gestes de l'orfèvre. Mais le restaurateur n'est pas orfèvre. Le restaurateur, lui, en général, s'efface derrière la pièce. Et donc ses outils sont beaucoup plus simples et beaucoup moins variés. Ce sont le petit coton-tige, le pinceau, et beaucoup de patience aussi.
Donc vous avez ici ma collègue Luyenne Boulanger qui m'a secondée dans toute cette entreprise pour la réalisation de cet ouvrage. Donc nous avons été trois restauratrices à travailler sur la restauration de plus de 260 pièces d'orfèvrerie. On a eu énormément de plaisir à faire ce travail puisque ce sont des pièces exceptionnelles. Et donc avec Gaëlle Giralt et moi-même, donc Frédéric Nico, il y a peut-être un effet Larsen, non ? Donc nous avons travaillé là-dessus. Donc du coup, je me présente. Alors je suis restauratrice du patrimoine. Donc qu'est-ce qu'un restaurateur ? Oui, il y a un petit souci. Donc qu'est-ce qu'un restaurateur ? Un restaurateur conserve. Donc il conserve et il stabilise. Donc pour ceci, nous avons deux termes. Nous avons la conservation préventive, c'est-à-dire que nous intervenons tout d'abord principalement sur l'environnement de l'œuvre, donc c'est-à-dire l'humidité, les vitrines, les éclairages, donc tout ce qui ne touche pas l'œuvre et qui peut éventuellement altérer l'œuvre. Nous avons aussi le terme de conservation curative. À ce moment-là, nous conservons, mais en nous approchant de l'objet. Donc, il s'agira d'enlever toutes les petites espèces chimiques qui corrodent le métal. Pour le bronze, par exemple, ce sont les chlorures. Pour l'argent, ce sont les sulfures. Donc là, c'est vraiment de la stabilisation. Et ensuite, donc, le restaurateur restaure, évidemment. Et là, restaurer, c'est une intervention vraiment directe sur l'objet. Donc, on s'attelle à restituer la lisibilité de l'objet. Ceci permet donc l'étude scientifique, parce que parfois, donc, comme pour les poinçons, ils sont masqués par la crasse, par les sulfures, donc on ne les voit pas. Donc, le restaurateur met en évidence toutes ces informations. Donc, il participe aussi à sa manière à la recherche. Et nous intervenons donc directement sur l'œuvre avec des traitements mécaniques, des traitements chimiques ou électrochimiques, donc selon le type de matériaux que l'on a. Et donc, restaurateur du patrimoine, c'est un métier, mais c'est un métier qui est très récent dans son acceptation d'aujourd'hui. Il a à peine 25 ans. Et donc, nous suivons une déontologie d'intervention. Donc, cette déontologie nous est dictée par l'ICOM. Et donc nous avons des préceptes que nous suivons, c'est-à-dire documenter toutes les interventions que nous réalisons sur les objets, parce que quand on ne documente pas, on ne sait pas par exemple où un objet a été restauré, et donc parfois ça peut amener des confusions après sur l'interprétation des objets. Si jamais par exemple il y a un collage qui est fait sur un objet, on indique avec quel colle ça a été fait pour que après, si jamais on a besoin de décoller pour quelconque raison, on puisse savoir avec quelle méthode la décoller sans forcément utiliser des méthodes violentes. Nous limitons nos interventions vraiment au minimum, c'est-à-dire que quand ce n'est pas utile, nous ne faisons pas plus que ce qui est nécessaire pour la bonne conservation et la bonne compréhension de l'œuvre. C'est-à-dire que si, par exemple, un bras est manquant sur une statue, on ne va pas refaire le bras si ceci n'est pas nécessaire. Tout dépend, après, des discussions avec les conservateurs. C'est vraiment un échange avec tous les responsables scientifiques des œuvres. Donc la réversibilité des produits employés, ça c'est très important. La lisibilité des interventions, on ne fait pas de faux. Nous préservons l'intégrité de l'œuvre, évidemment. Et puis la progressivité des interventions. Donc on essaye toujours la méthode la moins agressive vers celle qui est la plus efficace si vraiment cela est nécessaire. Donc on ne va pas directement vers le scotch brite, par exemple, pour nettoyer violemment certaines choses. Et évidemment, donc, les interventions se font de manière concertée avec tous les responsables des objets, que ce soit les conservateurs, les propriétaires, etc. Alors, ce code est essentiellement mis en place pour les musées, parce que un restaurateur, quand il aborde un objet, il ne l'aborde pas de manière systématiquement, pas systématiquement de la même manière. Il n'y a pas de recette, en fait, en restauration. Qu'on ait un objet de type muséal ou un objet de type MH, donc monument historique, la destination ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'en musée, ces objets sont sous vitrine, ils sont en atmosphère contrôlée, donc l'humidité est régulée, la température aussi, il y a beaucoup moins de polluants dans les vitrines, donc tout ce qui est conservation préventive est normalement contrôlé, et seules les personnes habilitées sont autorisées à les toucher. C'est-à-dire que les manipulations sont minimisées, Et donc, ceci évite énormément de casse, puisque le danger numéro un pour la conservation des œuvres du patrimoine, eh bien, c'est l'homme, tout simplement. Quand on aborde un objet, donc monument historique, on se doit de respecter plusieurs choses, puisque ce sont des objets qui sont encore en usage. Ils sont encore utilisés. Donc, on ne peut pas les mettre sous cloche. On ne peut pas, par exemple, pour un calice, on n'ira pas le vernir ni le cirer pour protéger le métal, puisque ce sera en contact donc avec, enfin, des personnes vont boire dedans. Donc, du coup, on fait attention à tout ceci. Ces objets sont stockés donc dans les églises, les sacristies. Ce ne sont pas des vitrines, ce sont des lieux qui sont vivants. Il y a de nombreuses manipulations. On peut pas, enfin les églises, vous savez bien que c'est très humide, donc du coup on peut pas contrôler tout ceci. Donc il faut aussi en tenir compte dans nos traitements. Et puis ils sont destinés, par exemple, à être manipulés lors de processions, et il est hors de question d'interdire tout ceci pour la bonne conservation de l'objet. Donc être restaurateur, c'est aussi informer, c'est aussi former. C'est-à-dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour transmettre un petit peu les bons gestes et les mauvais gestes à faire. C'est du bon sens, et du coup, il suffit juste de le savoir. Donc, je vais prendre le prétexte de cet ouvrage pour vous montrer donc un peu tout le travail que nous avons réalisé sur ces objets, et vous expliquer ainsi le protocole que l'on utilise pour restaurer un objet. Donc ici, ce qui a été très intéressant, c'est que le corpus a été très très varié. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait des calices, donc de taille moyenne, des ostensoirs qui pouvaient atteindre parfois jusqu'à 1,50 m. Je vous montrerai le monstre, comme je l'appelais. Après, vous avez des matériaux différents. Donc ici, vous avez tout un corpus d'ostensoirs. Alors le matériau, c'est principalement de l'argent. Et vous voyez donc de la couleur jaune. Alors qu'est-ce que c'est que la couleur jaune ? C'est de l'or, oui, mais ce n'est pas de l'or pur. En fait, dans tous les objets que nous avons restaurés, nous n'avons jamais eu d'objets en or massif, puisque les objets d'orfèvrerie sont principalement faits en argent ou en vermeil. Alors le vermeil, c'est de l'argent qui est doré. Donc, que ce soit de l'argent massif ou du vermeil, ça ne se restaure pas de la même manière. C'est-à-dire que si l'on frotte le vermeil, eh bien, on peut très bien altérer la pellicule d'or. Et ce sont des objets qui sont uniques, qui ont parfois traversé des siècles entiers, et on n'a pas le droit de les altérer davantage. Ce n'est pas notre rôle. Donc il faut bien connaître le matériau auquel on a affaire. Donc pour ça, il faut savoir l'identifier. Vous avez aussi des objets qui sont émaillés. Donc vous avez déjà vu, Hélène vous a montré le petit calice de Prunay qui est émaillé. Donc celui-là date de la fin du XIIIe siècle. Donc l'émaillage du XIIIe siècle, forcément, s'est altéré. Il y a des porosités, et donc l'eau qu'il y a dans l'atmosphère, en fait, va se mettre dans ces porosités et va altérer l'émail. L'émail s'altère. Donc du coup, lors de notre traitement de restauration, il faudra que l'on évite d'utiliser tout simplement de l'eau pour un seul produit qu'on aura utilisé, ou alors qu'on utilise par exemple un mélange d'eau-éthanol, comme ça l'émail sera conservé. Donc ça, il faut y penser aussi. La croix que vous avez sur votre droite, c'est la croix de Saint-Enimie, qui date, si je me souviens bien, la croix du XIVe siècle. Par contre, les émaux, eux, sont du XIXe siècle. Donc, ils sont en meilleur état. Ceci dit, comme vous pouvez le voir ici, il y a des lacunes, il y a des manques. Et ça, c'est principalement les mauvaises manipulations, les chocs. Voilà, ça part pas tout seul. Alors, vous avez aussi des reliquaires. Donc là, je vous ai mis tout un exemple de reliquaires que nous avons pu traiter. Et donc, dans les reliquaires, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a des reliques. Donc, du coup, pour le traitement, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Puisque les reliques, il y a d'abord l'aspect sacré. Le restaurateur ne va pas juste nettoyer le métal. On prend en compte tout l'ensemble de l'objet, c'est-à-dire que on va faire attention à la relique. Pour la manipulation, il va falloir faire très attention, par exemple, sur ce reliquaire de 40, le reliquaire de Sainte Suzanne, à ne pas le bouger dans tous les sens, puisque elles sont mobiles à l'intérieur. Sur le bras reliquaire qui est ici, donc non, celui-là. Les reliques peuvent s'enlever. Donc à ce moment-là, il faut réfléchir. Est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on les enlève pour mieux stabiliser l'objet, mieux le restaurer? Ou est-ce qu'on les laisse à l'intérieur et à ce moment-là, on fait une intervention minimum? Donc tout ça, c'est une collaboration donc avec les personnes qui sont responsables de ces objets. Donc on ne décide jamais, nous restaurateurs, de faire des opérations qui pourraient heurter certaines personnes. Donc, et puis on retrouve aussi notre petite sardine préférée. Donc à l'intérieur, il y a sans doute des ossements aussi, donc il faut faire attention. Donc on n'ira pas la rincer à grande eau, par exemple. Et puis, comme autre type d'objet, donc vous avez cette superbe vierge, c'est ma préférée, l'Immaculée Conception, donc d'Isle-sur-Tête. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure restaurée, c'est la même ici, avant restauration. Donc, vous voyez qu'elle est très sulfurée, donc tout ceci, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent sulfuré. Donc, il est devenu très noir, il est devenu sale. Et du coup, tout ce qui est détails de ciselure, on les voit plus très bien. Cet objet a été restauré, donc même à l'œil nu, là, moi, je peux voir qu'il y a des restes de pâte à polir dans les creux de la ciselure. Donc, du coup, il y a des informations qui sont masquées et que nous, restaurateurs, nous allons remettre en évidence. Donc, cette vierge est en argent. Elle est aussi polychrome, c'est-à-dire qu'elle a été peinte. Donc, pareil, pour le traitement, il faudra qu'on adapte notre traitement à la polychromie. Et puis, il y a un autre matériau qui est caché. Donc, je ne sais pas si vous avez une petite idée. Il s'agit du bois. Alors, le bois, on peut en voir un petit... donc, ça dépasse un petit peu ici. Donc, c'est lame en bois sur laquelle est posée la sculpture. Donc, du coup, qui dit bois, dit éviter d'utiliser de l'eau pour rincer... les éventuels produits de nettoyage qui seront appliqués sur le métal. Donc, il faudra faire attention aussi. Le bois, c'est lourd aussi. Donc, les manipulations, il faudra réfléchir à comment manipuler la Vierge au mieux. Donc, tout ceci est réfléchi au préalable, avant de toucher l'objet. Et donc, 263 objets d'orfèvrerie, ça ne s'improvise pas en restauration. Donc, pour ça, il faut être très organisé. Donc, Nous avons organisé donc notre espace de travail. Vous avez ici le coin photo où monsieur le photographe, je ne sais pas où, voilà, avait installé donc sa boîte à lumière. Donc les objets, après avoir été notés sur le listing à la photo, donc sont installés ici. Ils partent à la photo. Ensuite, Nous faisons le constat d'état des altérations sur ordinateur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous documentions toutes nos interventions, mais nous documentons aussi toutes les altérations des œuvres. C'est-à-dire qu'un nettoyage, c'est la seule opération qui est totalement irréversible en restauration. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, il faut absolument tout documenter. Donc, on va décrire la corrosion, on va décrire le type d'altération, là où c'est cassé. On va essayer de savoir pourquoi. Les restaurateurs sont un peu les médecins des œuvres. On utilise un peu le même vocabulaire. Donc, on va faire un constat et après, on va faire un diagnostic des altérations. Et c'est ce diagnostic qui va nous dire quelle technique nous allons devoir utiliser pour restaurer l'œuvre. Donc, après avoir fait ce constat d'état sur ordinateur, après, on passe donc à la restauration qui est ici. Et puis après, tac, retour à la photo. Après restauration. Et puis, on revient à l'ordinateur, donc toujours ordinateur, pour documenter les interventions et puis mettre aussi dans un petit champ toutes les informations que nous avons pu découvrir, puisque le restaurateur est, mine de rien, une personne qui passe énormément de temps sur les œuvres. Donc, du coup, on les connaît à la fin presque par cœur. Et on découvre parfois des petits détails que les chercheurs n'ont pas vus puisqu'elles étaient masquées. Donc on les met en évidence dans ces champs et comme ça, après, plus facilement, ils pourront revenir dessus et les étudier en les approfondissant. Donc ces œuvres ne sont pas venues toutes seules, elles sont venues avec des transporteurs spécialisés en œuvres d'art. Donc ici l'équipe Bovis hein, qui a été vraiment formidable. Tout ceci, c'est vraiment un travail d'équipe et une collaboration. Donc, ils ont amené les œuvres très bien protégées. Donc, je les ai réceptionnées en laboratoire. Ils ont fait toutes les manipulations lourdes et j'allais dire dangereuses, mais quand un Christ comme ça, de 3 mètres de haut, arrive dans le laboratoire, je vous assure que je n'en menais pas large. Donc, il faut trouver la place pour l'installer en toute sécurité. Et puis, ils ont fait ça très bien. Alors après, pour la photographie, donc vous voyez ici Hélène qui... je vous disais que c'était un travail de collaboration. Tout le temps, nous avons travaillé ensemble et c'est ça qui donne un résultat comme celui-ci. C'est vraiment la manière dont on aime travailler. Donc, des échanges constants entre le photographe, le conservateur, le restaurateur, les transporteurs qui aident aussi à mettre les objets lourds puisque le socle de cet ostensoir pesait plus de 30 kilos. Donc, ici, nous avons eu une aide très précieuse. Et voilà la seconde partie. Donc, c'est l'ostensoir le plus grand, 1,50 m de haut, et évidemment, donc, le plus lourd aussi. Donc, les manipulations, on les évite et on réfléchit avant de savoir comment est-ce qu'on va traiter l'objet, comment est-ce qu'on va le photographier. Il ne s'agit pas de le bouger plusieurs fois. Et donc, on s'est fait quelques plaisirs avec des œuvres absolument fantastiques. Donc, voilà un petit peu le protocole de travail. Donc, je n'ai pas fini. Donc, du coup, les altérations que nous rencontrons. Donc, assez rapidement, l'altération principale de l'argent, c'est la sulfuration. Donc, la sulfuration, c'est dû aux polluants de l'atmosphère, aux cierges qui brûlent dans les églises, aux milieux confinés. Et du coup, c'est ça qui donne cette couleur noire aux objets argentés. Cette sulfuration, c'est une corrosion que l'on peut appeler active, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est initiée, elle continue. Et plus l'objet est sulfuré, plus l'objet se dégrade rapidement. Donc en fait, c'est pour ça que restaurer les objets, les nettoyer, c'est stopper leur altération, ou du moins la ralentir. Donc c'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas uniquement pour les re-rendre beaux. Donc là, c'est un pied de calice. Non, c'est même un calice entier d'ailleurs. Tout ça pour vous montrer que tout le calice ici est sulfuré. Et que quand on le retourne en dessous, eh bien, il est impeccable. Donc, une bonne aération est parfois la meilleure des manières pour bien conserver un objet. Alors, on a trouvé tout un tas d'altérations assez incroyables. En particulier, ces objets avaient évidemment, au cours des siècles, été nettoyés de nombreuses fois. Donc, principalement avec de la pâte à polir. Et cette pâte à polir a rarement été rincé. Donc en fait, dans les creux, on avait tout plein de résidus. Et ces résidus ont provoqué la corrosion de la couche de dorure, ou en tout cas son érosion. Donc ici, vous avez le même phénomène. Et en plus, quand ça avait été rincé, donc ici, nous n'avons pas de reste de pâte à polir, nous avons juste l'érosion de la dorure, donc c'est qu'il avait été rincé. Quand ça a été rincé, à ce moment-là, ça a mal été séché. Donc du coup, qui dit eau ? Qui dit corrosion de l'argent, puisque l'argent, c'est un alliage de cuivre et d'argent. L'argent n'est jamais travaillé pur. Il y a toujours un petit pourcentage de cuivre. Donc, le vert que vous voyez ici, c'est la corrosion du cuivre qui est contenue dans l'argent. Donc, quand on restaure un métal comme celui-ci, il faut penser à toutes les altérations du cuivre, de l'argent, de la dorure. Et comme altération surprenante aussi, vous avez ici un calice moisi. Donc moi, je ne savais pas que le métal moisissait. Eh bien voilà, ici, ce sont des moisissures. Alors pourquoi des moisissures ? On le verra plus en détail tout à l'heure. Mais c'est parce qu'il restait des restes de pâte à polir. Et avec l'humidité, eh bien toutes les bactéries et les petites moisissures s'en sont nourries et se sont développées. Donc du coup, voilà. Et puis, vous avez donc de la sulfuration. Donc, ces couleurs qui sont très jolies au demeurant. Voilà, ce sont les sulfures aussi. Et vous avez donc imprimé dans cette sulfuration les empreintes de doigts. Donc là, on a des empreintes digitales de plusieurs personnes qui ont manipulé l'objet à main nue. Et donc, la sueur et l'huile qui est contenue sur les mains, eh bien, ça se dépose sur les objets. Et quand ces objets se sulfurent lentement, eh bien, l'huile fait une protection, Du coup, ça fait une empreinte. Et donc, nous sommes amusés à les répertorier ici. Donc, il y a évidemment des méthodes abrasives, comme la poudre de Tripoli, la poudre Emery, le blanc de Meudon. Donc, le blanc de Meudon, c'est pareil que le blanc d'Espagne, le carbonate de calcium. Donc, toutes ces poudres sont très abrasives. La poudre Emery, ça raye, on n'y coupe pas. Le blanc de Meudon, si c'est bien mis en œuvre, on peut simplement enlever la sulfuration, puisque la dureté du blanc de Meudon est à peu près équivalente ou un tout petit peu supérieure à celle des sulfures d'argent que l'on veut enlever. Donc à ce moment-là, c'est assez intéressant pour restaurer. Ceci dit, si on frotte comme un fou, et bien évidemment, on raye quand même l'objet. On a aussi retrouvé des méthodes chimiques, alors certaines très étonnantes, comme du gros sel plus de l'aluminium. Alors je suppose que les personnes qui avaient utilisé ceci souhaitaient faire une sorte d'électrolyse. Ceci dit, le sel, c'est du chlorure de sodium, oui. Et le chlorure du sodium, eh bien, ça contient du chlore. Et le chlore, c'est l'ennemi numéro un pour tout ce qui est métal. C'est ce qui provoque une corrosion assurée. Donc du coup, ça a peut-être enlevé la sulfuration, mais ça a introduit du chlore. Et là, je me demande dans quel état l'objet est aujourd'hui. La soude aussi a été utilisée, le vinaigre blanc, donc... Peut-être que cela marche, mais rarement ces méthodes sont rincées. Donc, ce sont quand même des bases et des acides. Donc forcément, ça enlève des couches d'argent. Donc plus on nettoie l'argent avec ces méthodes-là et plus on diminue leur épaisseur. Alors bien sûr, c'est de l'ordre du micromètre, mais au cours des siècles, je peux vous assurer que la dorure, elle aura disparu et le poinçon, il sera beaucoup plus érodé et du coup, l'identification sera beaucoup plus difficile. Donc, on a aussi retrouvé des méthodes que j'ai appelées bio, c'est-à-dire le jus de citron, l'épinard, l'oseille, la rhubarbe. Donc, le jus de citron, c'est tout simplement de l'acide aussi, c'est de l'acide citrique. Donc, pareil, ça altère l'argent, ça le nettoie, mais ça l'altère aussi. Et l'épinard, l'oseille et la rhubarbe, donc ce sont des végétaux qui, quand on les met en décoction, délivrent de l'acide oxalique. Donc, c'est très puissant, ça nettoie très bien, mais si ce n'est pas rincé, eh bien, c'est catastrophique. Alors après, donc les méthodes douces, celles que je préfère, donc la peau de chamois et l'alcool, ça marche aussi très bien, tout simplement. Et puis donc, de nos jours, on a tout ce qui est produit du commerce. Donc le dentifrice, quand vous regardez sur Internet comment nettoyer mon orfèvrerie, on trouve du dentifrice. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le fluor et tous les additifs qui se trouvent à l'intérieur du dentifrice, eh bien, finalement... ça peut avoir aussi une action sur la dorure, si on n'y fait pas attention, sur la patine, sur... Donc il faut faire attention. Tout ce qui est pierre d'argent, pierre d'argile, pierre blanche, ça raye et ça contient, mine de rien, des produits chimiques. Donc toujours très bien rincé si jamais c'est utilisé. Et puis le roi, le miroir, donc qui n'a pas utilisé du miroir pour nettoyer son argenterie. Donc le miroir, ça marche très bien. Et sur la notice, si vous lisez bien, il y a marqué « pas besoin de rincer ». Eh bien, le miroir, c'est tout simplement de l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, sur l'argent, ça fait pas bon ménage. Ça nettoie, c'est sûr, c'est impeccable, mais ça mange l'argent. Donc, beaucoup plus que le jus de citron, par exemple, hein, s'il est pas rincé. L'ammoniac, c'est irréversible. C'est dangereux pour l'argent, c'est aussi dangereux pour vous, puisque c'est un produit qui est très toxique. Donc, il faut faire attention, faut pas respirer. Et donc même si c'est marqué ne pas rincer, eh bien il faut absolument, donc je dis ça pour vous, votre orfèvrerie personnelle si vous en avez, absolument rincer, puisque c'est un produit chimique, tout produit chimique se rince et ça limitera les dégâts par la suite. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc du coup, maintenant vous allez me dire, mais si tout ça c'est interdit, avec quoi je restaure ? Eh bien, tout simplement, on a fait une petite compilation, on a réfléchi, et puis le restaurateur, lui, il est un petit peu apprenti chimiste, donc il aime bien fabriquer ses solutions. Donc, on a fabriqué, je vais vous donner ma petite recette, du coup, je sens que vous en mourrez d'envie. Donc, on a fabriqué tout simplement notre petite pâte à polir à nous, donc avec du carbonate de calcium, donc du blanc de Meudon, très très finement broyé, donc que nous avons broyé nous-mêmes. Après, nous l'avons mélangé avec... tout simplement du savon noir, puisque le savon noir, c'est du savon. Et donc, ça enlève tout simplement toute la crasse, toute la saleté. Et c'est principalement ce qu'il faut faire sur les œuvres en argent. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ça contient aussi de l'huile de lin. Donc de l'huile de lin, ça protège aussi le métal. Et puis nous avons rajouté une petite goutte de glycérol. Comme ça, ça fait une pâte qui est tout à fait utilisable, qui ne sèche pas et qui est très, très facilement employable. Donc on a fabriqué ça. Et puis avec nos petits cotons-tiges préférés et beaucoup de patience, nous avons frotté là où il fallait. Et puis, en réfléchissant bien, en faisant donc très attention là où il y avait de la dorure, là où il n'y avait pas de dorure, là où il y avait les reliques aussi. Et puis, à chaque fois qu'on appliquait ce produit, eh bien, après, on rinçait. Donc, ici, on a rincé à la vapeur, sauf dans les endroits où il fallait éviter l'eau. Donc, à ce moment-là, c'était très ponctuel avec des compresses. Donc, voilà, on a frotté beaucoup d'huile de coude. Mais quand on a des objets comme ça, ben c'est un vrai plaisir. Beaucoup de bonne humeur aussi, donc voilà. C'était de la finesse et de l'attention. Ces objets sont fragiles, donc il faut y faire très attention. Et puis de la sécurité aussi. Donc vous voyez que ma collègue a ici un masque, puisque nous n'avons pas seulement enlevé la sulfuration des objets, mais nous avons aussi stabilisé la corrosion quand il y en avait. Donc la stabilisation de la corrosion, pardon, se fait avec donc ici des solutions chimiques qui peuvent être toxiques quand on les respire toute la journée. Donc c'est pour ça que nous protégeons. Donc on restaure les œuvres, on les conserve, on les bichonne, mais il ne faut jamais oublier le restaurateur. Et puis donc beaucoup d'organisations aussi, puisque quand on est obligé pour restaurer de démonter, quand le cas se présente. Ici un reliquaire, eh bien, il faut le remonter sans se tromper. Donc, pour ceci, on prend des photos avant démontage, en cours de démontage et après remontage pour vraiment tout remettre comme avant. Mais là, ce fut vraiment un cas exceptionnel. En général, on n'a pas eu besoin de les démonter. Et puis aussi, surtout, il faut énormément de patience puisque cet énorme ostensoir soleil, voilà, j'ai passé une semaine à restaurer tous les petits... les petits rayons ici, donc recto et verso, puisque la majorité des œuvres qui avaient été nettoyées ne l'avaient été que sur la face visible, puisqu'évidemment, ce qui se voit, c'est beaucoup mieux. Mais restaurer, c'est aussi restaurer la face qui n'est pas visible. Donc, nous l'avons fait, nous avons pris ce temps. Et puis aussi, ce travail a nécessité, mine de rien, un petit peu de dévotion et de... Parce que ce sont des objets qui sont splendides, qui sont vraiment, vraiment superbes. Et puis, on se doit aussi de les respecter, ce pourquoi ils ont été faits. Donc voilà, on les a pas traités n'importe comment. Ce n'est pas que du métal, c'est aussi, il a aussi son histoire et son âme. Donc après la restauration, eh bien, c'est la photo. Et puis l'enregistrement des données donc sur ordinateur. Donc toutes ces données ont été transmises après à Hélène Paluzier et à la DRAC et ils vont en faire bon usage dans leur super base de données. Voilà. Et puis à la fin un petit clin d'œil parce que bon on a toujours la fierté d'avoir restauré un bel objet. Donc voilà. Une fois la restauration faite, eh ben ce n'est pas fini puisque je vous ai dit que l'homme était l'ennemi numéro un des objets. Donc bien conditionner les objets. C'est essentiel. Vous vous souvenez de ce calice moisi? Eh bien, en fait, le pied aussi était moisi puisque il y avait de la moisissure là un petit peu partout. Vous pouvez la voir. Le nœud aussi. Et du coup, ici, vous pouvez voir que quand on enlève la pâte à polir et les moisissures, eh bien, en dessous, il n'y a plus du tout de dorure. Donc, ça altère la dorure tout seul au cours du temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien rincer à chaque fois qu'on fait une intervention sur une pièce comme celle-ci. Pourquoi la moisissure? Eh bien, tout simplement parce que le contenant, il y avait aussi de la moisissure à l'intérieur. Donc, il faut restaurer des œuvres, mais aussi restaurer ce qui les contient quand elles ne peuvent pas être stockées dans un autre contenant. Donc il fallait désinfecter tout ça. Pour le stockage, tous les matériaux ne sont pas bons. Par exemple, il est bon, justement, il faut éviter tout ce qui est à base de laine, de soie, de feutre, de velours de laine et de velours de soie. Donc pour les boîtes, pour les écrins, mais aussi pour les vitrines, puisque tous ces matériaux sont des matériaux de base animale qui contiennent des sulfures. Et quand ces matériaux se dégradent, eh bien, ils relarguent des sulfures dans l'atmosphère. Et si vous vous souvenez bien, les sulfures dégradent l'argent et créent cette couche noire. Donc du coup, il faut éviter, il faut plutôt préférer le velours de coton ou la feutrine, par exemple, pour entreposer ces objets en argent. Le papier... Tiens, il y a eu des petits bugs. Le papier journal, par exemple, aussi est à éviter. On préférera donc un papier de soie. Donc le papier de soie qui porte mal son nom, hein, puisque ça ne contient pas de la soie, c'est tout simplement ces papiers très légers que vous trouvez, par exemple, les fleuristes les utilisent aussi. Éviter les films étirables pour enrouler les objets, ils contiennent des chlorures. Le caoutchouc et les adhésifs délivrent des sulfures aussi. Donc pour attacher les numéros d'inventaire, par exemple, il faut éviter. On préférera donc tout ce qui est scratch ou alors les liens en coton. Et puis pour la présentation de ces types d'objets, il faut éviter donc les surfaces qui ont été peintes la veille ou dans la semaine. C'est pour ça que c'est important de bien programmer une exposition si jamais le cas se présente. Il faut vraiment laisser le temps à tous ces composés volatiles de s'évaporer pour éviter qu'après, dans les vitrines, qui formera un espace confiné, eh bien l'objet s'altère davantage. Et puis pour le stockage, on évitera aussi les boîtes en contreplaqué, puisque le contreplaqué, c'est un assemblage de bois et de colle, et les colles délivrent aussi des composés qui ne sont pas bons. Donc on préférera tout ce qui est boîtes en plastique, en polypropylène, polypropylène alvéolé, qui sont beaucoup plus rigides, qui permettent en plus d'identifier les objets dans les sacristies, par exemple. Ça évite le vol, mine de rien, c'est bête, mais il faut y penser. Et donc... Donc voilà, les boîtes en carton aussi, c'est pas super parce que ça s'acidifie en vieillissant et puis surtout c'est hygroscopique, ça maintient l'humidité, donc pour le métal c'est pas super. Quand les objets, quand les plus imposantes œuvres me sont arrivées au laboratoire, donc elles me sont arrivées donc dans des caisses avec des petites mousses ici pour bien caler l'objet, il y en avait au-dessus aussi, et puis enroulé dans ce qu'on appelle du Tyvek. Alors le Tyvek, c'est un film qui est totalement inerte, c'est tout à fait adapté aux œuvres d'art. Donc quand on ouvre, on a le bonheur de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis donc toujours l'étiquetage, très important. Donc toutes les œuvres doivent être numérotées pour pouvoir les retrouver. Et puis encore une fois, éviter le vol et qu'on les retrouve sur eBay. Et donc là, bon, c'est un petit clin d'œil pour vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Bien protéger les parties fragiles, c'est important. Donc ici, c'est un conditionnement qui avait été fait par Cécile Van Lierdeux et Isabelle Darnasse, donc pour le Conseil général de Lozère. Elles avaient fait des conditionnements absolument superbes. Donc du coup, j'en profite pour vanter le travail de toutes ces personnes. Voilà, donc des boîtes en polypropylène, avec à l'intérieur des petits calages, des mousses. Et comme ça, on évite vraiment les bris, les mauvaises manipulations. C'est bête, mais c'est essentiel. Et donc, encore un autre type de conditionnement, avec des boîtes en plastique, toujours ce film en Tyvek, et puis des mousses. La photo de l'objet, une fois qu'elle est stockée, puisqu'après, quand on sort l'objet de sa boîte, parfois, on se demande comment il était, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations. Et donc, je vais finir par des petits conseils. Donc, pour l'emballage et le rangement des œuvres d'orfèvrerie, donc du coup, c'est bien de limiter l'apport d'air et surtout l'apport de poussière. Donc, enfermer tous les objets dans des boîtes, dans des placards, dans des coffres-forts. Préférer les endroits propres pour éviter la poussière et secs pour éviter l'humidité. Éviter la proximité, évidemment, de velours, de soie, de cuir, de caoutchouc, donc de tous ces matériaux qui altèrent les objets, mine de rien, au cours du temps. Et puis, éviter l'entrechoquement des pièces, bien les séparer. Et puis, vous avez aussi maintenant ce qui se fait de bien, ce sont les tissus anti-ternissure. Donc, ce sont des tissus qui coûtent assez cher, mais qui contiennent des inhibiteurs de corrosion. Donc, ils sont très pratiques, ils ne se vendent pas encore en France. Mais pour conserver l'orfèvrerie, je pense que c'est une chose qu'il faudrait étendre. Donc après, si jamais vous avez un de ces tissus entre les mains, par contre, ne jamais poser ce tissu directement sur les objets, puisque le produit pourrait... le contact n'est jamais bon. En général, ce sont les vapeurs d'anticorrosion qui sont bien. Et puis donc pour la manipulation des œuvres, ce n'est que du bon sens. Donc il faut simplement y penser. Donc éviter de toucher les objets avec les doigts. Prendre un seul objet à la fois, le manipuler à deux mains, s'assurer de la solidité de l'objet avant de le prendre, puisque effectivement, quand les objets sont vieux comme ça, ils ont leur fragilité, ils ont parfois été restaurés, recollés, donc il suffit de prendre un objet par un endroit qui a été recollé et malencontreusement, il peut tomber. Donc, en général, non, on tourne toujours autour d'un objet avant de, au moins 5 minutes avant de le prendre, donc on réfléchit toujours comment le manipuler. Et puis, avant de les déplacer, s'assurer que le chemin n'est pas encombré de chaises ou de fils ou de quoi que ce soit avant d'aller le poser. Et puis, donc, toujours le déplacer dans sa boîte de transport si jamais cela est possible. Et puis, des derniers petits conseils d'entretien, tout bête, donc bannir tout ce qui est abrasif et produits ménagers. Tout simplement utiliser un chiffon doux, une peau de chamois, c'est très bien. Un objet qui est nettoyé simplement, régulièrement, il n'y a rien de mieux. Ça évite d'utiliser tout un tas de produits. Et puis ne jamais s'improviser restaurateur, puisque à chaque fois on me demande si j'ai soudé pour recoller. Non, la soudure n'est pas la seule manière de recoller des pièces détachées. Il y a des colles qui sont très bien, ou alors il y a des petits systèmes entièrement réversibles de petites pattes. Enfin, il faut être ingénieux et il y a toujours des solutions et il suffit d'y penser. Ne pas vernir les objets quand ce n'est pas nécessaire, parce qu'un objet qui est verni, si jamais il s'altère, les vernis sont poreux en fait. Donc quand il y a des sulfures après dans l'environnement, l'objet peut redevenir noir de soufre sous le vernis. Ce n'est pas pour ça que ce sera bien protégé. Donc après, si un restaurateur intervient après, il va lui falloir enlever le vernis, c'est-à-dire travailler beaucoup plus sur l'objet et ensuite enlever la sulfuration. Donc c'est double travail, c'est double temps et puis aussi c'est une intervention beaucoup plus lourde sur l'objet. Et puis comme c'est double temps, c'est aussi double coût parce que mine de rien, c'est quelque chose qui compte. Donc éviter de vernir, c'est en plus une opération en moins, donc c'est pas essentiel. Pour les objets de musée, je dis pas, parce qu'ils sont surveillés constamment, parfois même trop, mais voilà, pour les œuvres d'orfèvrerie, c'est pas toujours essentiel. Et puis quand on sait pas, tout simplement demander son avis au conservateur ou alors un restaurateur reconnu par les monuments historiques ou les musées, ça peut être intéressant toujours d'échanger. Donc voilà, et puis pour le plaisir, quelques photos de restauration avant et après, donc tout simplement un calice. Le pied de l'ostensoir de Collioure, donc en cours de restauration, vous avez ici la partie non restaurée, et là la partie restaurée, le pied terminé, et puis ici avec son soleil. La croix d'Oreilla, donc en cours de restauration, donc ici non restaurée, ici restaurée. Toujours la croix d'Oreilla, avant restauration, après restauration. Et puis le coffret de mariage, donc qui a servi de reliquaire. Ici, donc il y avait plusieurs matériaux, donc il a fallu réfléchir à comment travailler dessus. Et là, vous aviez aussi de l'argent. Donc une fois que c'est restauré, ça donne ça. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus joli. Et surtout, c'est un objet qui est stabilisé, puisqu'il n'a plus de sulfure, et du coup, la corrosion est ralentie. Et donc, la grande croix de 3 mètres de haut, avant restauration et après. Donc, quand c'est terminé, on est content, et ça fait plaisir. Et puis, la dernière image, voilà, cette superbe Vierge d'île sur tête, une fois restaurée. Et donc, comme elle dit merci à tout le monde, voilà, je vous remercie de votre attention, et j'espère que ça vous intéresse.
Il n'y a absolument rien à rajouter à l'exposé de Frédéric, qui est une véritable magicienne, mais simplement je voulais dire que lorsque les propriétaires, les maires, les prêtres, les sacristines ont réceptionné les objets à leur retour, ils étaient absolument émerveillés et tout juste s'y reconnaissaient leurs objets. Enfin voilà, ils étaient vraiment très très contents. Merci encore d'être resté jusqu'au bout.